Bonjour Issa. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer la périnatalité. Cette période périnatale et ses possibles perturbations est peu présente dans la littérature et encore plus en bande dessinée. Madone et Médée répare cet oubli. Le livre témoigne de ces mères qui sombrent à cause d'accouchements contrariés et d'IVG ou d'IMG, interruption médicale de grossesse, de plus en plus difficile à obtenir, ou de dépression postpartum. C'est avec deux autrices que nous découvrirons ce roman graphique. D'abord avec Laure Westerlund, pédopsychiatre et co-scénariste, et puis Morane Marzars, dessinatrice. Tout ça, c'est à partir de 14h10. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, Issa est en technique. Et ce thème, donc ce roman graphique, Madone et Médée, résonne d'autant mieux que sur le territoire donc de la clinique de Ganges, vaste territoire qui comprend 4 communautés de communes, eh bien la fermeture de la maternité cause énormément de soucis, de contrariétés. J'emploie le mot fermeture parce que la suspension qui était normalement le terme utilisé par l'ARS et Cap Santé, eh bien, ne convient pas à la situation. Même si on va avoir une nouvelle clinique, mais il reste beaucoup de choses en suspens. Alors, une info, je ne vais pas appeler ça une brève parce qu'à force, ça n'en est plus beaucoup. Donc, une information qui fait suite à toutes celles que j'ai pu passer par rapport au Festival d'Angoulême. Vous avez peut-être entendu parler qu'il y aurait un off à Angoulême. Alors, le off en question s'appelle le Grand Off d'Angoulême, et c'est d'ailleurs un site internet qui vous permettra d'avoir toutes les informations concernant cette proposition qui émane à la fois des auteurs de différentes structures, des éditeurs indépendants. On n'a pas les grosses structures éditoriales qui permettent au festival habituel de se tenir. Et donc là, on a beaucoup de petites structures, et il y en a un très grand nombre, qui vont proposer différentes expositions, rencontres avec des auteurs, débats, et c'est vraiment un programme très complet. Alors en fait, il y a une résonance particulière avec le festival lui-même, puisque au début du festival, dans les 10 premières années, toute la partie fanzine était un peu laissée pour compte et avait du mal à trouver un espace de visibilité sur la manifestation. Et donc, les petite structure éditoriale. Alors il y avait aussi donc les fanzines qui font partie de cela, qui ont réussi à avoir un espace spécifique et qui petit à petit a pris de l'ampleur jusqu'à devenir un coin de la manifestation. Et un auteur comme Willem, systématiquement, dans Libération, où il avait une chronique régulière sur tout ce qui concernait l'édition de dessins, faisait systématiquement un tour, même plus que ça, une exploration de toutes les structures qui étaient présentes sur le salon. Et on avait, dans ses articles, une présentation de ce qui pouvait émerger et de ce qui était à retenir de ces différentes propositions. Donc il y a une filiation historique avec le festival lui-même, et il y a notamment de la part des organisateurs une charte qui a été adoptée, et ça c'est important parce que ça a permis de fédérer les différents organisateurs. Il y a notamment pas de hiérarchie dans la notoriété. Si tel auteur a effectivement une reconnaissance déjà appuyée et forte, il n'a pas de droit supplémentaire sur celui qui émerge et qui pourra être un des grands talents de demain. Donc, cette charte a permis de vraiment à ce que la mayonnaise se fasse, a permis à un programme d'être défini avec précision. Alors, quand on est sur le site internet, c'est la seule réserve que j'ai. C'est bon, j'ai pas encore vu la manifestation, mais lorsqu'on est sur le site, on a un programme jour par jour. Et qui devient absolument délirant parce qu'il y a tellement d'expositions. Et comme on a des expos qui sont ouvertes sur 4 jours, il suffisait de mettre du 29 janvier au 1er février et on économisait un certain nombre d'espaces sur les pages et c'était plus condensé, beaucoup plus facile à appréhender. C'est juste un détail, mais surtout que ça peut se corriger assez facilement. Donc en tout cas, cette organisation du Grand Off qui s'appuie sur les auteurs et les autrices, les petites structures éditoriales, les fanzines qui font vivre la bande dessinée en totalité, qui après, et ça il ne faut pas l'oublier, il y a aussi des maisons d'édition qui permettent à des auteurs de pouvoir vivre de leur création, parce qu'il y a effectivement une structure éditoriale un peu plus importante. Mais il n'empêche que ce off avait besoin d'exister. Il y a une école d'art à Angoulême, il y a donc une présence dans les partenaires des écoles d'art, il y a aussi le FRAC Poitou-Charentes qui est là. Et donc, ça montre bien que tout le vivier qu'il y a sur cette partie des Charentes, cette ville des Charentes, eh bien, montre une très forte dynamique. Ah, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller, mais en tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup d'auteurs. Et il y a aussi un point très important, c'est la gratuité. Un des problèmes du salon a quand même été que l'augmentation du tarif d'entrée proposé par 9e Art Plus a créé, a démarré et a activé le scandale qui avait aussi d'autres raisons. Mais ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et bien là, c'est gratuit. Alors, c'est pendant les dates du festival, du 29 janvier donc au 1er février. Et une chose est sûre, c'est que pour l'édition 2027, si tout s'est bien passé à la fin du mois de janvier, eh bien, la société qui va reprendre l'édition du salon, il va falloir qu'elle tienne compte de ses forces vives et de la charte qui a été définie par l'ensemble des acteurs de ce grand off. Musique.
I'm you and I.
Madone et Médée associent dans ce regard sur la maternité contemporaine la figure des mères à celle de femmes allant jusqu'à l'infanticide. Nous découvrons ces mères en souffrance au quotidien, en dépression postpartum ou en burn-out parental. Lors des consultations d'Elsa, pédopsychiatre, qui les reçoit dans un service de périnatalité d'un hôpital public, Laure Wächterland écrit une fiction à partir des rencontres avec ces femmes lors de leur suivi. Un récit choral bouleversant sur la natalité malmenée par les disjonctions, les dysfonctionnements de la société et les désengagements de l'État. Nous sommes avec Laure Wächterland pour discuter sur son récit. Laure Wächterland, bonjour.
Bonjour Bruno.
Comment c'est lancé, c'est mis en place, cette écriture dessinée où vous présentez votre service de pédopsychiatrie qui accompagne différentes situations périnatales? Pourquoi avoir choisi la bande dessinée?
Alors, cette idée, elle a émergé en fait d'une discussion avec notre éditrice, donc Madame Marie-Agnès Leroux, où ça venait à une période où elle-même était maman depuis un petit moment, et moi je venais d'être maman, et elle savait que je travaillais hein, en pédopsychiatrie, en périnatalité plus spécifiquement, et on a discuté de toutes les injonctions qui pesaient en fait autour des femmes en général et surtout dans cette période du devenir mère. Et elle m'a demandé, moi, si j'y étais confrontée, comment j'y étais confrontée à l'hôpital et si on pourrait en faire un récit. Et l'idée de la bande dessinée est venue assez rapidement. Moi, c'est mon premier scénario, je n'avais jamais écrit, et j'avais très envie en fait de ne pas faire un projet solitaire, mais à la fois de coécrire et aussi de partager ce scénario avec une autre médiation qui serait le dessin. Et donc, ça s'est inscrit comme ça.
Il y a une dimension autobiographique forte, puisqu'on vous voit au travail, avec la rencontre avec des femmes et des couples aussi. Il y a un choix de plusieurs cas, de plusieurs situations. Alors, comment s'est fait ce choix, Laure Wächterland?
On voulait justement partir sur un récit plutôt choral. Bon, déjà, même si c'est autobiographique sur la partie formelle, c'est-à-dire ce qu'est l'hôpital, les situations restent évidemment de la fiction. C'est un récit, ça ne correspond pas à des patientes, évidemment, en particulier. Et moi, ce dont j'avais envie aussi, en partageant avec Morane et Mathilde, ma co-scénariste, c'était qu'il y ait un large éventail de femmes qui puissent peut-être se reconnaître, s'identifier à travers ce récit choral, parce que d'expérience, la maternité est peu explorée en littérature, au cinéma ou dans les arts en général, plus en peinture. Mais les femmes manquent, je trouve, de récits sur lesquels pouvoir s'appuyer, pouvoir adosser leur imaginaire, leurs angoisses, leurs propres récits, et peut-être de pouvoir avoir cette puissance identificatoire d'un récit et de l'image. Ça nous est vite venu de balayer un éventail de femmes et des situations qu'elles traversent, puisque même si chaque femme, évidemment, a son histoire qui lui est propre, je pense qu'il y a des patterns qui peuvent se ressembler dans ce qu'elles peuvent vivre.
Alors, les situations sont très différentes.
Oui.
On a même tentative, alors le récit va vraiment bien le détailler, mais d'une femme qui a failli passer à l'infanticide. Comment vous évaluez, comment vous ressentez la situation de ces, de ces personnes aujourd'hui dans notre société? Est-ce qu'il y a une dégradation due à la gestion de la santé aujourd'hui? Bon, il y a une petite note enfin qui est assez parlante là-dessus. Comment ressentez-vous dans votre quotidien cette situation des femmes aujourd'hui face, je dis face, mais à l'accouchement et à toutes les situations de grossesse un peu difficiles et de postpartum parfois très, très violent?
Bon, c'est vrai que bon, actuellement, je crois qu'on voit à quel point l'hôpital public est en déliquescence. Et même si la santé mentale, même si je n'aime pas trop ce terme, est toujours promue grande cause nationale, ça reste très déclaratif. Et dans les faits, ça ne se traduit pas par des moyens concrets, comme des ouvertures de lits, des soignants, des effectifs un peu plus nombreux, qui seraient quand même vraiment importants pour prendre en charge que ce soit les enfants, les parents, et de pouvoir les accompagner dans cette période périnatale qui peut être chamboulée. Donc il y a un vrai problème de ce côté-là. Et de toute manière, la pédopsychiatrie a toujours été le parent un peu pauvre de la médecine. Donc là, en situation de crise, on est les premiers impactés et touchés. Même si aujourd'hui on reconnaît hein, que la santé mentale périnatale doit être dotée de moyens, il y a des efforts qui sont vraiment faits, mais cela reste insuffisant. Donc oui, les femmes sont laissées un peu seules. Et on le voit aussi à travers les différentes politiques de fermeture. Hein, des maternités comme la maternité de Ganges. Là, il y a aussi à Thenon, il était question de fermer quand même le service pour les interventions volontaires de grossesse, les IVG. Donc Thenon, pour rappeler, c'est un hôpital dans le nord-est de Paris qui draine quand même une population qui n'a peut-être pas les moyens de pouvoir aller en libéral. Donc on sait tout ce que ça implique en termes de retard d'accès aux soins et des situations désastreuses, qui peut être par exemple celle illustrée par Océane dans le récit.
Alors, Laure Westland, vous avez choisi de rester vraiment au niveau intime et de ne pas faire rentrer dans le récit ses préoccupations plus politiques. Comment s'est passée la relation avec les patientes pour que ça devienne un récit? Est-ce qu'elles l'ont, vous les avez prévenues? Est-ce qu'elles ont eu ou ils, puisqu'il y a des moments aussi les pères, ce qui est devenu leur récit dans la bande dessinée. Comment s'est passé
Alors,
le travail avec eux?
là encore, chaque situation relève vraiment de la fiction, c'est-à-dire il n'y a pas évidemment des interruptions de grossesse, des deuils, des interruptions médicales de grossesse, tout ça sont des situations rencontrées par beaucoup de femmes, mais chaque situation que je décris est inventée, elle ne correspond pas à une ou plusieurs patientes, hein. Elle relève de la fiction. Évidemment, le dispositif médical ou la situation clinique médicale, ça, elle se rencontre dans le quotidien, mais leur histoire relève de la fiction.
Par rapport au dialogue, comment avez-vous travaillé les dialogues pour qu'ils sonnent justes? Parce qu'ils sonnent étonnamment justes. Je pense à Océane, par exemple, on a parlé de l'interruption médicale de grossesse. Il y a une colère
Est bien présente.
qui est très présente. Alors là où, comment travaillez-vous les dialogues pour que ça sonne, j'imagine, comme en consultation avec ces femmes?
Ça, peut-être que ça. Je l'ai écrit vraiment avec ce que moi je peux dire, ou évidemment c'est un peu retravaillé, mais ça c'est très inspiré de mon quotidien, des tonalités que je perçois, des phrases que peuvent sortir certaines patientes. Et donc ça marque, en tout cas, en effet, certaines consultations qui, par leur tonalité ou leurs propos, laisse des traces, donc je m'en suis inspirée et après ça a été aussi retravaillé avec Mathilde Ramadier qui pouvait orienter ou donner aussi bien sûr son regard plus affûté sur la structure des dialogues.
Il y a vraiment un propos qui est très bienveillant, très juste, constamment.
En fait, quand j'écrivais, je m'imaginais en consultation et parfois je les dictais en fait et après je les réécrivais et je les relisais à voix haute pour voir si ça sonnait vraiment comme en consultation. Donc oui, j'ai écrit en parlant quasiment. J'ai écrit en parlant.
Et avec Morane, il y a eu un lien particulier par rapport à cette relation texte-dessin, dialogue-dessin.
Oui. Alors avec Morane, c'était assez fabuleux parce qu'on ne s'est pas rencontrés beaucoup de fois et on s'est rencontrés surtout en visio. Et j'avais l'impression qu'elle avait complètement saisi et qu'elle avait, comme si elle était déjà venue avec moi en consultation. Et elle a vraiment su palper ce qui est un peu de l'indicible et du langage non verbal. C'est pour moi vraiment assez magique. Je ne sais pas comment elle a réussi, mais elle est incroyable. Son travail est incroyable. Moi, je suis émerveillée. Quand je regarde ses dessins, je peux lire la BD juste en regardant ses dessins. C'est assez époustouflant.
Laure Wesson, qu'est-ce que peut faire ce livre? Comment il peut agir?
Oula, c'est lui demander beaucoup. Ça pourra peut-être l'aider en se disant si qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule déjà, comme beaucoup de femmes ont pu traverser ce qu'elles traversent, parce que ce que beaucoup de femmes pensent quand je les reçois en consultation, c'est qu'elles sont folles ou qu'elles ne devraient pas penser comme ceci ou agir comme cela, et qu'elles sont peut-être les seules à traverser ce qu'elles vivent. Et quand je leur dis, bien sûr que non, déjà ça les apaise. Donc peut-être de voir que plein de femmes sont traversées par ces lignes de faille en période périnatale, ça peut déjà les apaiser. Peut-être aussi leur donner, non pas des solutions, mais de se dire qu'il y a des professionnels qui peuvent les aider si jamais ça vacille de trop, qu'il y a des professionnels qui peuvent les écouter et les aider. Mais déjà, si c'est un support d'identification, ce sera très bien.
Merci beaucoup. Merci. Round your city, round the clock. For everybody needs you. No, you can't make everybody equal. Although you got Buku family, you don't even got nobody being honest with you. Free till I evaporated. My whole body see-through, transportation handmade. And I know it better than most people. I don't trust them anyways. You can't break the law with them. Get some good, she have a calm night. Shooters killing left and right. Working through your worst night. If I get my money right, you know I won't need you. And I tell you, I hope the sack is full up. I'm fucking, no, I'm fucked up. Spend it when I get that. I ain't trying to keep you. Can't keep up a conversation. Can't nobody read you. Why your eyes well up? Did you call me from a seance? You were from my past life. Hope you're doing well, bro. I've been out here head first. Always like the head first. Signal coming in and out. Hope you're doing well, bro. Everybody needs you. Everybody needs you. Ooh, nani, nani. This feel like a quaalude. No sleep in my body. Ain't no bitch in my body. New beginnings. New beginnings. Wake up, the sun's going down. Time to start your day, bro.
Can't keep being laid on. Oh, you need the money if you gon' survive. Every night, shit, every day, shit. Drop your baby off at home before my night, shit. You know I can't hear none of them spend the night, shit. Kumbaya, shit. Wanna see Nirvana, but don't wanna die, yeah. Wanna feel like none of them you can vibe. Fuck with me after my shit. Oh, them boys wanna see me broke down, shit. Bummed out.
Pour la mise en image de Madone et Médée, de l'ambiance des consultations d'Elsa, Moran Mazar s'appuie sur la sensibilité de son trait au plus près des hommes et des femmes marqués par ses complications périnatales, mais aussi des équipes soignantes. Cette bienveillance des paroles se retrouve dans l'attention au regard. Les couleurs affirment pleinement leur dimension narrative en associant une palette restreinte spécifique pour toutes les différentes situations vécues. Nous sommes aux côtés de ces femmes et de ces hommes, d'Elsa, la pédopsychiatre, lors de ses accompagnements en consultation. Nous sommes avec Moran Mazar, qui nous invite au cœur de sa mise en image. Bonjour Moran Mazar.
Bonjour.
Alors, comment vous êtes-vous approprié ce récit de Laure Wenchland et de Mathilde Ramadier?
La mise en relation entre nous trois a été faite par l'éditrice Marie-Agnès Leroux. Grâce à elle que les liens se sont tissés. Et moi, j'ai immédiatement connecté avec ce récit, même si j'ai pas d'enfants, mais parce que justement cette question d'avoir des enfants ou pas, elle est aussi le fait de toutes les injonctions à la maternité pèsent beaucoup sur ce choix, et donc moi c'est aussi quelque chose que je vivais même sans avoir d'enfants. Donc je trouvais que le sujet était très intéressant et que c'est l'importance de cette bienveillance et de montrer cette pluralité de parcours à tout le monde.
Alors, vous avez assuré la mise en image, on a entendu Laure Wenchland tout à l'heure. Il y a des situations très différentes, c'est un récit choral, avec pour chaque situation une évolution des sentiments, des émotions, des situations aussi. Comment avez-vous visualisé ces situations pour vous engager dans le dessin?
J'ai essayé de... Alors, le fait de travailler avec des palettes différentes pour chaque personnage, c'était important pour moi, pour soutenir la lecture, parce que je sais, c'était dès le début l'idée qu'il y ait énormément de personnages. Et peu importe mes capacités en termes de dessin, il fallait quand même que ça soit clair qu'on passe d'une situation à une autre, d'un personnage à un autre. Et en ça, la lecture était très soutenue par la couleur. Comme ça, même si, par exemple, il y a deux personnages bruns, on n'hésite pas entre les deux, on se dit pas « Ah, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle ?» Non, on sait que c'est telle ou telle personne. Donc il y avait vraiment quelque chose à ce niveau-là de permettre de différencier les situations, les personnages, etc. Et de faciliter la lecture. Et après, chaque couleur choisie en fonction du personnage a quand même une dimension assez symbolique par rapport à sa situation. Où, par exemple, Samira qui plante un citronnier, il y aura le jaune du citron dans sa palette. Par exemple, pour la supérieure hiérarchique de notre héroïne, la couleur dominante, c'est le rouge, parce que c'est une couleur vive, une couleur de pouvoir aussi, etc., etc. Donc, il y avait un équilibre à trouver entre quelque chose de purement symbolique et quelque chose de plus graphique, et comment aussi choisir des palettes qui contrastent bien les unes avec les autres, encore une fois, pour clarifier la lecture.
Alors, Moran Mazar, donc j'imagine une première rencontre avec Laure et Mathilde. comment votre dessin a nourri cette rencontre et comment s'est échafaudé ce travail à trois?
Alors, vu qu'on habite toutes les trois dans des villes différentes, ça a été très dur de se rencontrer en vrai au début. C'est venu progressivement. Au début, les échanges ont surtout été par mail et par visio. Mais je dirais que ce qui a le plus parlé, donc c'est entre nous trois, c'est au début, c'est les mots. Moi, je pense que j'ai appris à rencontrer Laure et Mathilde via leur écriture, en fait, essentiellement. Et en fait, il y a quelque chose qui a cliqué assez vite, je dirais. Et à chaque fois, ça fonctionne par aller-retour, ce genre de processus d'écriture et de dessin. J'envoie quelque chose, on me dit oui, non, ça, il faudrait changer, etc. Et là, en fait, ça a été, je crois qu'on s'est comprise assez vite parce que les allers-retours étaient assez simples, en fait. Il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, je pense que le contact est vraiment bien passé. Je crois qu'on a vraiment compris les intentions les unes des autres assez spontanément, ce qui est vraiment une chance dans ce type de travail.
Morane Mazars, comment travaillez-vous, notamment par rapport à l'ensemble du récit, qui est quand même un récit d'ampleur? Est-ce que vous avez un storyboard? Est-ce que vous dessinez à partir de la suite dialoguée que vous avez? Comment
oui.
se passe le travail?
Alors, je reçois un scénario. Et là, le scénario était très ouvert en termes de... J'avais pas d'indication quant aux images, quoi, ou alors très peu, plutôt comme des didascalies, en fait, mais pas vraiment d'intention visuelle de la part des autrices qui m'ont fait confiance. Donc, à partir de là, moi, effectivement, je fais un storyboard. Que j'envoie soit au fur et à mesure, soit tout d'un coup, ça dépend, que j'envoie aux scénaristes, à l'éditrice, qui font leur retour, et après on passe au planche finale. Et là, c'est la première fois que je travaillais sur iPad, parce que j'avais envie de travailler plus le trait plus en détail. D'aller plus justement dans l'intimité des personnages avec des gros plans, une attention particulière à la gestuelle et au visage. Mais donc voilà, c'est la grosse différence avec ce livre par rapport à mes livres précédents, c'est l'utilisation de l'iPad. Mais sinon, le processus est le même, même quand je travaille seule, c'est d'abord le scénario, ensuite le storyboard, ensuite les planches finales. Assez classique en somme.
Comment se passe le dessin des regards, Morane Mazars? Parce que alors, il y a un vrai défi à relever, là, vu les situations et les évolutions des différentes situations des femmes et des couples.
Le dessin des regards, justement, j'essaie de réfléchir à déjà, je pense qu'il y a quelque chose, un aspect un peu... empirique entre guillemets, dont j'ai pris conscience durant une table ronde avec les scénaristes. Moi, j'ai déjà fait et je fais toujours de la psychanalyse, et donc vu que là on est dans le bureau, enfin d'une psy, d'une pédopsychiatre, je me suis demandé, j'ai essayé de convoquer, enfin les souvenirs sensoriel que j'ai moi quand je suis face à ma psy, comment est-ce que j'exprime, parce qu'on est assis quand même ou allongé parfois, enfin, moi je suis plutôt assise, qu'est-ce que le psy va chercher en fait dans notre attitude pour comprendre les émotions qui nous traversent, comment elles s'expriment ces émotions dans un contexte où on n'est pas non plus censé gigoter dans tous les sens, enfin. Et donc j'ai réfléchi beaucoup à ça, justement à ces micros, à cette micro-gestuelle qui exprime tellement de choses, la contraction des doigts, le regard qui fuit ou pas, le fait de se voûter, enfin voilà, toutes ces petites choses dont à travers le corps s'exprime, même quand on est censé être assis de façon relativement polie dans le bureau d'un professionnel.
Et les Noirs, Morane Mazars, parce qu'il y a aussi un mouvement, donc on a parlé de la palette restreinte associée à chaque situation, mais il y a un mouvement en tout cas des Noirs ou des couleurs sombres dans chacune des situations et des espaces blancs qui restent dans la case. Qu'est-ce qu'ils vous permettent d'exprimer ?
Alors justement, j'ai utilisé peu de noir dans cette BD. Pour le coup, j'ai essayé de faire des noirs colorés. Donc, il me semble qu'il y a deux situations, deux palettes où on a du noir ou presque. C'est quelque chose que je dis assez souvent en BD. Une BD, c'est jamais une case toute seule. C'est même pas une planche toute seule, c'est l'ensemble des planches mises côte à côte. Du coup, c'est plutôt comme ça que je réfléchis au noir et au blanc, donc au plein et au vide. Il faut qu'il y ait une harmonie au sein de la page, mais aussi par rapport à la page qui est à côté. Donc, c'est souvent comme ça que je réfléchis cette utilisation des pleins et des vides. C'est comment, si là, je vais mettre beaucoup de noir dans cette case, alors la case d'après, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une respiration. Je crois que respiration, c'est un terme qui marche bien avec la BD, vu que c'est quand même un travail de longue haleine, pour filer la métaphore. Et voilà, il faut faire attention au rythme et à justement bien mesurer ce rythme d'une case à l'autre, d'une page à l'autre, d'un chapitre à l'autre. Donc je dirais voilà que les noirs et les blancs sont vraiment pensés ensemble, quoi.
Quelle dessinatrice êtes-vous, Morane Mazars ? Comment ça se passe sur votre table à dessin ? Vous êtes très posée ? Vous avez au contraire de la retenue, une énergie et vous mettez en couleur ? Comment ça se passe ?
J'essaye là depuis quelques années, mais assez, enfin pas trop non plus, d'essayer de comprendre comment je travaille pour me garantir des meilleures conditions de travail à l'avenir. Et force est de constater que j'ai beaucoup de mal à me mettre au travail, mais qu'une fois que j'y suis, je me mets dans ce que j'appelle des vrais tunnels de travail où je fais beaucoup d'heures à la suite ou de journées ou de semaines. Là, pour des raisons de timing, Madame Zemédé j'ai dû dessiner très vite et quasiment pas prendre de week-end pendant plusieurs mois. Mais je crois que c'est quand même une façon de travailler récurrente pour moi. C'est toujours, c'est pas l'angoisse de la page blanche, mais il y a toujours cette difficulté à rentrer dans un projet, et une fois que j'y suis très fort, et quand j'en ressors, je me sens toujours un peu perdue, quoi. Mais perdue parce que je quitte la réalité dans laquelle j'étais fermement ancrée pendant des semaines. Et après, je sais pas comment je suis sur ma table à dessin. Vu que c'était la première fois que je travaillais à l'iPad, c'est une position de dessin qui est tout à fait différente. Et en général, je gigotais dans tous les sens et je changeais régulièrement de lieu de travail. J'ai beaucoup dessiné dans mon lit, ce qui fait que j'ai dû aller voir une masseuse à la fin de ce livre parce que je me suis vraiment fait mal, quoi. Donc il y a un problème de posture. Si je dessine à la main, en général, mon plan de travail est vraiment complètement plein et saturé de d'encre et de tout, plein de choses, jusqu'à ce que je finisse le travail, quoi. C'est vraiment cette logique de tunnel, quoi.
Il y a une question sur à la fois le cadrage, et puis un des compléments qui est souvent peu évoqué, c'est le lettrage. Là, il y a un lettrage qui permet d'avoir un texte suffisamment présent et conséquent dans les cases où il y en a. Et puis, il y a un lettrage qui fait que l'occupation de ces dialogues est souvent assez restreinte et permet une très grande lisibilité, une fluidité et une lecture facile. Et puis pour le cadrage, il y a un récit qui reste à hauteur d'yeux. On n'a pas les plongées, les contre-plongées. Alors, sur ces deux points, pourquoi ces choix, Morane Mazars ?
Pour le lettrage, c'est que j'ai mon écriture à moi, elle n'est pas très régulière et pas forcément extrêmement lisible. Donc j'ai créé une typo à partir de mon écriture pour garantir la lisibilité et faire en sorte qu'elle ait quand même ce côté un peu manuel, mais voilà, tout en les restant lisible. C'est quelque chose sur lequel je travaille encore actuellement, de comment créer des typos qui restent spontanés et qui restent manuels, mais qui soient moi, quoi, mais qui soient pas, qui soient quand même lisibles. Et après, pour les cadrages à hauteur d'œil, quoi, à hauteur d'homme, comme on dit, bah, c'est comme je disais tout à l'heure, on est dans des situations intimistes, on est dans le cabinet d'une pédopsychiatre, face à face, en fait, avec des gens qui souffrent. Et donc, je dirais que le fait de rester avec cette échelle de, enfin, avec des échelles de plan assez proches et avec des cadrages d'égal à égal, bon, bah, déjà, ça, c'est assez parlant. Mais à hauteur de regard, on va dire, ça fait que ça laisse la part belle, effectivement, à ce dialogue, parce que la mise en scène des personnes et des dessins, elle n'est pas du tout spectaculaire. Elle est assez même quotidienne, parce que c'est l'expérience quotidienne d'une pédopsychiatre. Et donc, ça laisse toute leur place au récit de ces femmes. Il y a rien qui vient nous déconcentrer de leur récit, mais le dessin et la mise en scène et ces cadrages, ils sont là pour soutenir l'intensité émotionnelle de ce qu'elles disent. Mais voilà, c'est vraiment ce fait de laisser la place à la parole.
Morane Mazars, qu'est-ce que va permettre ce livre pour votre création future? Est-ce qu'il ouvre l'horizon plus particulièrement?
Qu'est-ce qu'il ouvre pour moi? On va voir, hein, c'est on va voir dans quelle direction ça va aller à partir de maintenant. Après, je pense que les questions féministes ont toujours été au cœur de mon travail, mais là, je pense que c'est la première fois qu'elles sont abordées de façon aussi frontale, parce que mon livre précédent que j'ai écrit et édité, Là où dorment les géants, c'est aussi un livre très féministe, mais dans un univers plus fantastique, plus un univers de contes. Donc, je dirais que on est moins dans... Enfin, les questions de féminisme, elles sont plus imagées, plus métaphoriques, alors que là, on est dans le vif du sujet. Et le livre sur lequel je suis en train de travailler actuellement, qui devrait sortir cette année, 2026 donc, aborde aussi des questions féministes très réelles, concrètes et de façon frontale. Donc peut-être que voilà, je vais aller dans cette direction pendant un moment, mais après, il y a des choses qui me tiennent plus à cœur que d'autres dans la vie, mais c'est important pour moi de me renouveler aussi bien en termes de dessin, aussi bien qu'en termes de récit. Ouais, parce que je veux pas d'une carrière qui reste coincée dans une boucle où les leitmotivs, c'est toujours intéressant, mais il faut que le mouvement général il aille de l'avant et qu'il tourne pas en rond, quoi.
Merci beaucoup, Morane Mazars. Je vais rappeler les caractéristiques du livre, donc écrit par Mathilde Ramadier et par Laure Wechtelant, et mis en image, lettré par vous-même. Donc, c'est publié par les éditions Futuropolis. Les 128 pages de ce livre sont au prix de 21 €, et il a été imprimé en France. Je vais rappeler deux titres qui sont importants et en lien avec Madone et Médée. Il y en a un qui est sorti il y a pas mal d'années, qui était une des premières bandes dessinées sur l'infanticide, qui s'appelle Crash Text, de Grégory Ponchard et Phyllis Guarzoni. Et puis aujourd'hui, sur France Culture, il y avait la présentation de Mexico Médée, de Dalia de la Cerda, aux éditions du Sous-Sol, qui traite aussi de ces situations. Très bonne continuation, Morane Mazars. Merci d'avoir
beaucoup
répondu à ces questions. Au revoir.
Merci à vous et très bonne journée. Merci pour ces questions. Au revoir.
Je voudrais terminer cette émission avec un livre qui est sorti il y a quelque temps, c'était en 2025, et qui faisait suite à un premier tome qui avait extrêmement bien marché. C'est le deuxième tome de « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » d'Émile Ferris. Et je tenais absolument à vous le présenter. J'attendais peut-être la possibilité d'un entretien avec l'autrice américaine. C'est un peu compliqué, donc je préfère présenter le livre. Et puis si jamais l'entretien est possible, je n'hésiterai pas. Alors, moi ce que j'aime, c'est les monstres, c'est un journal. Comme beaucoup ont écrit des journaux du quotidien, il y a même une association en France, la PAS, c'est l'association sur l'autobiographie, le patrimoine autobiographique. Donc c'est vraiment une écriture tout à fait particulière. Et pour marquer cette écriture, Émile Ferris a choisi de conserver le cahier de départ, le cahier sur lequel elle peut écrire. Alors, on a donc imprimé ces cahiers avec ce trait rouge pour la marge, les traits bleus pour faire les lignes, et on est vraiment dans un journal. C'est une précision essentielle parce que est associée à ce choix de la forme du journal quotidien celui d'une extrême précision, d'une absolue précision du trait, du dessin. Donc finalement, Émile Ferris, avec ses deux points, montre que ce journal-là a vraiment une valeur. Elle affirme, il n'y a finalement pas de doute dans ces représentation, dans ce qui est écrit, dans ce qui est compilé dans ce journal. Elle va dire d'ailleurs, à un moment, en parlant à une personne qu'elle vient de rencontrer à Chalais, « Juste pour que tu saches, je me dessine comme je suis vraiment et pas comme les autres me voient. » Et sur la couverture de ce deuxième tome, on a le personnage principal de ce journal qui est le pendant d'Émile Ferris, l'autrice. C'est donc Karen Reyes qui est représentée et qui se représente en vampire. Elle a une tête un peu monstrueuse et c'est comme cela que Émile Ferris se voit. À chaque fois qu'on va avancer dans la lecture de ce deuxième tome, c'était déjà le cas dans la première, il va y avoir un mouvement d'écriture qui n'est pas soumis à celui du récit habituel de bande dessinée, avec ses perturbations narratives et avec des attendus. Et donc, Émile Ferris balaye tout ça, se centre sur cette représentation du monde qui passe par son regard, qui est empreint d'un plaisir à imaginer les monstres, à les voir, et qui, déjà dans le premier tome, et ça se poursuit et s'amplifie dans ce tome 2, cette présence d'une monstruosité chez les humains, avec un peu d'appréhension, de frayeur à imaginer cette monstruosité qui peut être en chacun de nous. On a donc une représentation du monstre imaginaire, comme il peut y en avoir dans beaucoup de littérature, et la bande dessinée a permis à des auteurs d'être très féconds là-dessus. On a des représentations de monstres assez spectaculaires, et tout au long de son récit, Émile Ferris cherche à et va créer des couvertures, des fausses couvertures qu'elle dessine, et on est dans ce plaisir de cette littérature horrifique. Et puis il y a la monstruosité des humains, et il y a un personnage, le personnage d'Anka, qui était une voisine et qui est décédée, qui a été tuée, qui n'est pas vraiment une trame narrative, mais qui est convoquée. Cette trame est convoquée à certains moments, mais l'apport du journal reste constant. Et donc, on a cette chaîne narrative, plutôt, avec le meurtre d'Anka, qui va avancer. C'est un personnage important, parce qu'elle a été victime de la barbarie nazie, et Karen va écouter les cassettes des témoignages de cette femme sur ce qu'elle a vécu. Et donc, il va y avoir pour Émile Ferris la représentation de cette monstruosité, de cette barbarie. Et c'est la très grande force, l'autre très grande force de ce tome 2, qui était déjà approché et abordé dans le tome 1, c'est qu'il n'y a pas seulement une extrême précision du dessin. Il y a un mouvement même dans la réalisation graphique qui va dépendre des situations. À chaque fois que l'autrice affirme son regard sur les choses, le dessin est vraiment d'une très grande précision. Tous les dessins d'Anka sont vraiment d'une qualité graphique, d'un réalisme, mais qui a une puissance inhabituelle. Et puis à chaque fois qu'il y a des doutes sur la retranscription, sur la représentation, sur la mémoire, avec les défauts qu'on peut y avoir sur la mémoire, ou lorsque c'est des témoignages de personnes qui ont vécu des situations que l'autrice n'a pas vécues, le trait va être moins précis, va être plus lâché. Il y a même une scène où on est dans un témoignage et le trait va être d'une grande simplicité. Il est à l'énergie, avec ce travail sur le noir et qui est dû à un travail de stylo-bille qui permet ce travail très fin, avec un trait très fin. Et sur ces noirs, eh bien, on imagine Émile Ferris en train de tracer par un ensemble de petits traits ces traits de contour. Et c'est particulièrement important sur cette page qui est beaucoup plus blanche. Émile Ferris est une autrice assez incroyable. Elle a eu une vie atypique. À 40 ans, elle est piquée par un moustique, elle tombe dans le coma, elle se réveille, elle a quasiment une impossibilité de se servir de ses mains. Impossible pour elle d'arrêter ce projet, de ne pas continuer à le mettre en œuvre. Elle va aller jusqu'à se coacher le stylo sur la main pour pouvoir dessiner. Et quand on voit la qualité des dessins, mais c'est tout simplement subjugant. Le travail de hachure est un travail qui offre la mise en couleur à Émile Ferris. Donc on n'a pas un aplat, il n'y a aucun aplat. Mais il y a ce travail où les hachures vont être mouvantes, vont se rapprocher, se resserrer et apporter des teintes un peu plus foncées ou au contraire s'écarter et donner au blanc un peu plus d'espace. Mais le travail très précis de la hachure, et on imagine vraiment, il n'y a pas de geste systématique. C'est comme si la régularité du trait était associée à ce travail minutieux de la hachure qui fait que lorsque vous regardez les dessins, eh bien, il y a cette vraisemblance, cette intensité, cette intimité qui va être là. Et que vous, dont vous vous imprégnez tout au long de la lecture. Il y a derrière cette question, moi ce que j'aime c'est les monstres, cette question aussi bien du statut des femmes, et se représenter en tant que monstre, c'est montrer aussi que ce statut des femmes est soumis à beaucoup de vindictes, d'agressions, et donc il y a un combat pour s'affirmer, et cette écriture de journal, ce journal le fait pleinement. Dans le tome 1, il y avait Émile Ferris enfant, là nous avons Émile Ferris adolescente qui se rapproche de l'âge adulte. Il y a un troisième tome qui est prévu. Déjà, c'est un livre qui est un classique. Maus de Art Spiegelman n'avait pas été édité par un éditeur de bande dessinée. Là, moi ce que j'aime c'est les monstres, c'est édité par un éditeur de littérature au départ qui est Monsieur Toussaint Louverture et qui a un catalogue littéraire assez remarquable. Il y a par exemple dans son catalogue de livres un auteur comme Frédéric Exley qui est aussi un auteur comme ça qui écrit son quotidien sans cette trame narrative imposée et qui est aussi un des grands monuments de la littérature. Il y a aussi la dimension, l'accueil a été incroyable. Émile Ferris a reçu de très nombreux prix. Elle a eu le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême. Et c'est pleinement justifié. C'est un livre qui va devenir un très grand classique, mais au même titre que les très grands classiques de la littérature. Je pense qu'on peut... Un écrivain comme Marcel Proust a une œuvre littéraire considérable. L'œuvre d'Émile Ferris aura cette ampleur. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris. Le tome 2, c'est publié par les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Les 412 pages de ce livre sont au prix de 34,90 €. Il y a un remarquable travail d'édition. C'est traduit par Jean-Charles Khalifa, qui avait également traduit le premier tome. Et pour le lettrage, qui est aussi un travail d'ampleur, c'est fait par M. Toussaint Louverture, assisté d'Emmanuel Justo. Le livre a été imprimé en Italie. Très bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec, bien sûr, d'autres invités. Merci Issa pour cette technique. J'ai dépassé un peu l'heure. Bonne semaine à tous. Écriture dessinée.